Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Wake Up NBA, votre podcast préféré sur la NBA. Moi, c'est Gus, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Et évidemment, je ne suis pas seul. Avec moi, celui qui pourrait être évoqué dans l'émission d'aujourd'hui au vu de ses performances le dimanche après-midi sur les parquets de la région centre, c'est Vincent. Salut Vincent.
Salut Gus, bon, m'en sens pas non plus, on va peut-être pas à ce niveau-là non plus quand même.
C'est quoi le record là, cette saison? C'est quoi le record?
Bah, il est très très frais parce qu'il date de dimanche dernier, il est 34. Donc,
Ah, c'est pas mal, c'est pas mal.
Ah ouais.
Ça dépend du pourcentage de tir, mais ça aurait pu être évoqué. Nous sommes aussi avec celui qui a un point commun avec l'un des joueurs dont on va parler aujourd'hui, c'est Rémi. Salut Rémi.
Hello tout le monde. Pourquoi j'ai un point commun, Guiz? Est-ce que je
Bah,
peux enfiler 60 points easy?
Non, parce que tu bois autant de bière que Lucas. Et pour compléter
C'est
l'équipe
mon
de ce
bro.
soir, comment?
C'est mon bro.
Et pour compléter l'équipe de ce soir, celui qui espère qu'un Rocket s'apparaisse dans nos focus un jour, c'est Miguel. Salut Miguel.
Bientôt Victor Wembanyama peut-être. On
Inch'Allah,
espère.
Inch'Allah. Cette
Croise les doigts.
semaine, oui, il y a les Spurs qui sont sur le coup aussi, t'inquiète. Cette semaine, nous vous proposons un focus sur les performances légendaires des stars NBA de ces quelques dernières semaines, avec une grosse question que Rémi va nous poser dans un instant. Sortez tranquillement de votre lit, faites couler le café, le reste, on s'en occupe. C'est parti. Eh bien Rémi, je te laisse soulever cette question.
Eh bien, ma question, deux points, ouvrez grand guillemets, à quel point est-ce que c'est facile de scorer en NBA aujourd'hui? Et surtout, à quel point est-ce que c'est même facile de scorer aujourd'hui par rapport à il y a 5, 10, 15 ans? Alors, on sait très bien que la NBA, elle évolue, ça c'est clair, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, marquer plus de 40 points, bah, ça correspond à marquer plus de 30 points il y a quelques années. Un mec qui met 38 points un soir, on se dit ouais, ok.
C'est vrai.
Exactement.
Alors qu'on se rend pas compte que.
Jamorène cette nuit, par exemple.
Ouais. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit Wow, Jamorant, énorme match? Non.
Non.
Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des mecs qui nous enfilent des matchs à 71 points.
En fait, c'est devenu banal en fait de scorer en NBA maintenant. C'est par rapport à quelques années où les défenses elles étaient un peu plus présentes. Là, moi,
Ouais.
c'est vraiment le point que je vais soulever. C'est qu'en fait, j'ai l'impression que ça défend plus en NBA, mais vraiment plus en fait. Genre, les mecs, ils en ont rien à foutre. De la
Alors
régulière, ils en ont rien à foutre. Ça, c'est vraiment l'impression que ça donne.
que pourtant, j'ai l'impression qu'on a certains profils où c'est parmi les meilleurs défenseurs qu'on ait rarement vu. Tu vois, par exemple, sur les profils extérieurs, Marcus Smart, défenseur en titre de l'année, des Mikal Bridges, par exemple, on a rarement vu des extérieurs défendre aussi bien. Surtout dans une époque de la NBA où il y a autant de spacing avec autant de mecs qui tirent à trois points, où il faut à la fois pouvoir s'écarter, à la fois pouvoir se concentrer sur les raquettes et tout. À l'intérieur, on a des mecs comme Giannis, comme Anthony Davis, bon, quand ils jouent. Enfin, défensivement, les mecs sont incroyables. Et pourtant, ça continue d'enfiler les paniers comme pas possible.
Oui, ben moi, tu vois, justement, le fait qu'on ait beaucoup plus de spacing qu'avant, pour moi, c'est juste révélateur et c'est un facteur qui fait que du coup, tu as plus d'espace. Donc, en plus, on sait que de plus en plus, il y a de plus en plus de joueurs, des corps qu'on n'a jamais vus, un peu comme Giannis, etc., où les mecs sont de plus en plus athlétiques et de plus en plus, comment dire, en fait, t'as même plus besoin d'être vraiment technique, en fait. Hashtag Pascal Siakam hein, pour les fans de Toronto. Mais non, en fait, j'ai l'impression que c'est plus facile parce qu'il y a plus d'espace et que il y a plus de joueurs qui sont capables de faire ce genre de performance aussi. Il y a aussi le fait que tu regardes des joueurs il y a 30 ans, dans une équipe, tu avais un joueur fort, deux max, et autour, c'était entre guillemets des peintres.
Ouais.
Quand je dis des peintres, c'est des role-players, alors que là, tu vois, dans plein d'équipes, en fait, eh ben, tu as peut-être 3-4 joueurs qui sont capables de faire des performances comme ça.
Ça, c'est clair qu'on n'a jamais eu autant de mecs aussi skillés en NBA. On n'a jamais eu autant de talent. Ça, c'est clair.
C'est ça, le
Bah
truc,
ouais.
c'est que la NBA, elle évolue. Et en fait, les joueurs, en fait, ils ont des palettes offensives qui deviennent de plus en plus larges. Alors après, au bout d'un moment, ils vont plus pouvoir pousser les limites, tu vois. Mais là, on a des joueurs qui sont capables tellement de
Globo.
shooter. Non, mais en fait, il y en a tellement qui. Genre, ils sont tellement capables de shooter de loin, de driver, d'être au tomard et tout, qu'en fait, bah, les mecs, il n'y a pas forcément. Il y a des mecs, il n'y a pas de solution, en fait, pour défendre dessus. Donc, c'est
Ouais, c'est
compliqué.
clair.
C'est compliqué.
Mais comme tu disais Vincent aussi, le fait que tu vois les règles défensives ont changé, forcément, bah tu peux plus défendre comme à l'époque des Bad Boys, comme la Jordan Rule ou ce genre de choses, où en fait le but c'était juste de niquer ton adversaire et c'était pas toujours sifflé, tu vois. Donc je pense qu'il y a aussi ça. Et moi, il y a aussi un point que je veux mettre en avant. Je pense que c'est la surprotection des stars aussi. J'ai l'impression j'ai l'impression que sur plein d'aspects, genre il y a plein de petites fautes qui sont minimes et qui sont pas sifflées pour tout le monde, mais que tu donnes parce que c'est le nom du joueur, tu vois.
Et qui est de plus en plus flagrant. Parce que ça a toujours été vrai.
Oui,
ça a toujours été
privilégié. Mais c'est de plus en plus flagrant.
Ouais, je suis d'accord avec c'est justement ça.
Et même en plus de ça, c'est encore plus flagrant en attaque. Quand on voit comme James Harden ou des Luka Doncic, ou même des Trae Young, l'an dernier, on a dû stopper la règle de provoquer la faute en souffrant.
Ouais.
Parce que les mecs, sinon, ils faisaient ça tout le match. Mais bon, les mecs sont quand même malins, ils arrivent quand même à le faire. On voit bien des mecs comme Luka, James Harden, ils arrivent à provoquer un nombre de lancers qui est incroyable.
Ouais.
Et en fait, ils sont trop avantagés par rapport à ça, je trouve.
Ouais, c'est sûr que au niveau des arbitres, quand on voit qu'un Jimmy Butler, il y a deux nuits, là, il tire 23 lancers. Alors, il fait 23 sur 23, c'est fort, hein, c'est vraiment fort.
Record NBA, déjà, 40 sur 40 pour le 8.
Ouais, pour le 8, ouais. Mais c'est énorme, enfin. Tirer 23 lancers francs pour un joueur, c'est énorme. Après, au final, il met 35 points. Forcément, déjà, il y a 23 lancers.
Après, Jimmy Butler, pour le coup, alors 23, c'est énorme. Hein. Oui, pas celui qui
abuse le plus. On est d'accord, voilà. Ouais.
Lui, c'est un mec qui drive. Et
c'est vraiment qui drive et que.
Mais c'est pas comme un Trae Young qui va feinter 4 fois jusqu'à ce que le mec il saute et qui tombe dedans, quoi. Tu vois.
Ou un Joel Embiid.
Oh, ça va. Tu vas te détendre.
qui est un des joueurs les plus dégueulasses à regarder jouer. Voire même, c'est possible de vomir devant ses matchs.
Mais en tout cas, là, autour de Nouvel An, sur un span de quoi, 2 semaines, on a eu des performances.
De zinzin. Clairement. Alors après, moi, il y a peut-être un autre truc. Alors. Moi, j'ai deux autres trucs. C'est que déjà, je trouve qu'il y a plus de zones en NBA. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. Je trouve qu'il y a plus de défense de zone. Et du coup, quand tu as des mecs qui mettent dedans et qui sont dans la zone, justement, tu fais rien, en fait, parce que du coup, tu restes en zone. Il y a ça. Et il y a le fait que sur chaque pick and roll, ça switch, en fait. Oui. Et le fait que ça switch sur tous les picks, les meilleurs défenseurs, ils défendent pas. Les meilleurs défenseurs, ils défendent pas forcément sur les meilleurs joueurs en attaque. Donc du coup, c'est un peu faussé le truc. C'est que du coup, Donovan Mitchell, il voit que ça va être Jaylen Brown qui va défendre sur lui ou Marcus Smart qui va défendre sur lui. Et il va devant un écran avec pour que ce soit Derrick White, avec le mec qui est défendu par Derrick White pour que ce soit Derrick White qui se retrouve dessus. Et donc Derrick White, il va pas défendre comme Marcus Smart.
Après, au bout d'un moment, il faut aussi que les défenses réfléchissent et que si tu laisses Derrick White défendre à chaque possession sur il peut en mettre 71, tu vois, comme il a fait le 3 janvier.
On est d'accord, mais de plus en plus, c'est ça, je trouve.
Moi, je cite, le jeu en Europe est plus difficile en NBA. Il y a évidemment plus de talent en NBA, mais il y a aussi plus d'espace. En Europe, tout est plus intense, la défense tout-terrain, les prises à deux, les zones tout-terrain, la défense en homme à homme, tout le monde joue beaucoup plus physique en défense. C'est Giannis Antetokounmpo qui dit ça. C'est pas un défenseur ridicule. Et offensivement, je pense qu'il sait de quoi il parle. Et on a même Luka qui nous avait sorti ça, comme quoi c'était bien plus facile de scorer en NBA qu'en Europe. Bah ouais, la preuve en est. Parce que du coup, comme tu dis, les défenseurs, vu qu'ils switch, t'as pas toujours le meilleur défenseur.
C'est surtout qu'en Europe, tu peux rester sous le panier.
Alors oui, il y a ça aussi.
Faire en NBA.
Mais tu vois, par exemple, Luka, c'est pas sous le panier qui score.
Non, mais je veux dire, attaquer une zone ou en Europe, c'est pas la même chose, parce que du coup, t'as du monde en bas, t'as de la barba qui peut rester dans la raquette.
Oui,
alors que tout en permanence, en NBA, ça se compresse et ça ressort pour que du coup, ça crée des espaces, tu vois. Mais ça, c'est la règle des 3 secondes.
Mais après, c'est au final, c'est la NBA qui veut ça, en fait. C'est la NBA qui veut que ça soit un show avant d'être du vrai basket, en fait.
Enfin, ouais, c'est clair.
C'est vraiment ça, parce qu'au final, sinon ils auraient peut-être pas. Ils veulent vraiment tout pour l'attaque et pour le show, forcément. Quand tu vas voir un match, quand tu vas voir un spectacle, tu vas voir des attaquants, tu viens pas regarder les défenseurs. Et en fait, la NBA, c'est vraiment axé là-dessus. C'est-à-dire que ils préfèrent qu'il y ait un mec qui mette 70 points un soir qu'il y ait un mec qui fasse que Kevin Durant il en met que 15 un autre, tu vois.
Donc,
c'est vrai en fait. Et du coup, genre là, la NBA, ils veulent vraiment faire que ce soit les attaques qui priment par rapport aux défenses. Et du coup, c'est comme ça. Et je pense que ça évoluera pas dans le bon sens. Pour moi, ça évoluera pas dans ce sens-là en NBA. Hein.
Ouais, c'est sûr.
Mais moi, Miguel, moi c'est, justement, ouais, c'est justement le point où moi, je voulais en venir. C'est que, parce que déjà, là, on parle de cette perf-là, mais on parle en saison régulière. On sait très bien qu'en play-off, on n'aura pas ça. Parce qu'en play-off, forcément, quand tu as un mec qui a la main chaude et tu, en fait, tu changes ton système, tu fais tout pour l'arrêter parce que là, tu sais que c'est des matchs en jeu. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que la saison régulière, on est juste sur de l'entertainment, du spectacle. Et c'est, franchement, tu n'as même plus l'impression de regarder un sport. Hein. Là, quand tu regardes les perfs qu'on a, c'est juste pour le show, c'est juste pour divertir les foules. Et moi je trouve ça c'est un problème. À l'ancienne c'était pas comme ça et moi je trouve qu'on est plus dans le spectacle aujourd'hui.
Ouais mais tu vois genre un exemple tout con Donovan Mitchell il met 71 points, il va en prolongation sinon jamais il gagne le match en fait, donc c'est nécessaire de faire ce genre de perf. Alors certes il l'a fait tout seul, ça se trouve peut-être que dans un autre registre c'est une équipe collectivement qui se serait soulevée par la défense etc. En tout cas il est le fait est que bah, genre Donovan il met 71 points et que sans ça ils vont enfin jamais ils reviennent dans le game tu vois.
Mais du coup moi ce que je comprends pas en fait c'est que justement le mec il est déjà à 50, il va y avoir des prolongations et en fait il y a eu aucune adaptation défensive sur ce match là.
Éclaté en défense, vas-y c'est bon arrête de critiquer là, on est mauvais
mais je veux dire, c'est bon. Mais je veux dire le mec il en a mis 50 et bah tu vas doubler dès qu'il a la balle en fait.
Bah ouais.
Non mais et au final, tu vois ce que je veux dire.
Les autres
et en fait, tu forces les autres à jouer. Un mec qui est dans la zone, tu le forces les autres à jouer. Et au final, c'est pas ce qui se passe en NBA. Non, parce que du coup, bah forcément, c'est mieux qu'il y ait un mec qui mette 70 points et voilà, et on en parle tous les jours, machin. Et voilà, c'est ça.
Après, c'est compliqué de doubler parce que du coup, il y a tellement de talent que du coup, tu peux pas laisser un mec tout seul. Tu vois, si tu fais une prise à deux, il y a un mec tout seul et les mecs, ils savent tellement shooter que si tu laisses un mec tout seul à 3 points ou sous le panier, c'est pas possible.
Au moins, c'est pas le mec qui a la main chaude et qui va en mettre 80, tu vois ce que je veux te dire.
Ouais, mais tu vois, je préfère que ce soit. Je préfère que ce soit le mec qui a la main chaude qui tire sur un défenseur plutôt qu'un mec qui a pas forcément la main chaude mais qui tire sans défenseur.
Ouais, après, c'est là où le problème défensif il est. C'est que quand tu vas doubler quelque part, normalement, t'as les rotations défensives et tu arrives à trouver des solutions. Ouais, tu laisses pas le mec tout seul. Non, même si, oui, justement, ça... avec les qualités athlétiques des mecs, pour faire des rotations défensives, ça doit se faire.
Je suis d'accord avec
donc,
ça.
Bon. Pour après, moi, c'est comme ça.
Après, c'est un choix que les Bulls n'ont pas fait sur ce match-là. Mais bon, en même temps, genre, Giannis, quand il t'en plante 45, je suis désolé, mais Giannis, t'as beau le doubler, il en a rien à foutre. Hein. Là, ouais. C'est parce que c'est Mitchell et que c'est un arrière qui fait 1m93. Mais ouais. Sinon.
Miguel, tu parlais des matchs en jeu là, pour les playoffs. Giannis, il en a voulu 50 en Game 6 de finale NBA. Hein.
Ouais, mais ce que je veux dire, par exemple, là, tu regardes le record all-time en points en play-off, c'est Jordan Kill avec 63 points. Alors que là, tu vois, là, en fait, t'as l'impression, de toute façon, aujourd'hui, quand on regarde la NBA, si ça dépasse pas les 50 points, bah, en fait, c'est une perf normale. Et ça, en play-off, on sait très bien que, moi, j'attends de voir justement ces play-offs-là, parce que vraiment, cette année-là, on le voit, c'est n'importe quoi. Si en play-off, on a des perfs comme ça au-dessus de 50 points, Giannis, il l'a déjà fait il y a pas longtemps, ok. Mais si on a, ça se reproduit plusieurs fois là, cette saison, même dans les années à venir, là, je veux bien qu'on en reparle, tu vois. Mais moi, je sais très bien qu'en play-off, quand tu te fais démonter par un mec, je pense qu'en face, tu fais tout pour... si tu peux choper le match, tu fais tout pour le contrer.
Ouais, il faut le stopper, ouais, bien sûr.
Mais en plus de ça, du coup, en play-off, si les mecs ils arrivent à faire des grosses perfs en play-off, là, ça veut vraiment dire que le mec est vraiment fort. Parce que là, les défenses vont s'adapter plus. Ouais. Là, les arbitres, ils suivent quand même beaucoup moins en play-off. Hein, c'est quand même un peu plus rude dans les play-off, quand même.
Bah, on l'a vu sur les dernières finales. En finale, ça a été compliqué pour eux à ce niveau.
Donc au final, si le mec il va en planter 50, là, Giannis qu'en plante 50 sur une finale, bah là, c'est que le mec, vas-y, il domine tellement que bah en fait, tu peux faire ce que tu veux, tu peux donner ce que tu veux, tu peux faire les prises à deux que tu veux, machin, bah lui, il s'en bat les couilles. Alors que je suis pas sûr qu'un mec, y a des mecs qui ont mis 50 points en saison régulière, mais là maintenant, ils sont dans l'anonymat total. Enfin, il y en a des perfs à 50 en saison régulière, mais les mecs en playoff, ils ont jamais passé un tour de playoff, ils ont jamais plus de 10 points sur un match. Parce que la régulière. Non, mais Corey Brewer, par exemple. Corey Brewer a déjà fait un match à 50 points, les mecs, en régulière. Ah ouais, tu vois ce que je veux te dire? Mo Williams a fait un match à 50 points en régulière. Il y a des mecs comme ça, alors que Mo Williams, bah, c'est quand même un bouge-barre. André Miller a fait un match à 50 points en régulière.
Enfin, là, qui font des perfs tous les jours, tu vois. Oui, et oui. T'as des mecs qui font des perfs, en fait, ça se trouve sur la saison, sur les 80 matchs, ça se trouve, il en joue 70, mais en fait, il y en a 25 où il est au-dessus de 35, tu vois.
Oui.
Alors qu'un sursaut sur un match, on sait que ça peut arriver, mais en fait, c'est le fait que ce soit régulier pour certains joueurs, notamment, qui est intéressant. Et là, j'en reviens à notamment, à, en fait, bah, notamment Jokic, Giannis, Embiid, et même Jokic. LeBron James, même si LeBron, ces derniers mois, c'est pas forcément ça. Mais Luka, Embiid, Giannis et Jokic, et ben en fait, ils font 35 points, enfin, ils sont quasiment à 35 points de moyenne.
Il y a 8 joueurs à plus de 29 points par match cette année.
C'est énorme. Tu regardes
il y a 5 à 30 ou plus.
C'est en quelle année que KD il est meilleur scoreur? C'est en 2013 ou 2012?
Ouais, 2013 ou 2014. Ouais, en tant que KD, il a été plusieurs fois meilleur scoreur, je crois.
Ouais, mais je veux dire, il était pas à 35 pions, tu vois.
Ah bah non, de toute façon, des joueurs qui ont dépassé les 35 pions, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a James Harden qui l'a fait
James
en 2019.
Il y a James Harden récemment, il avait 36.
Ouais, c'est ça.
Mais bon, 36, il avait 20 lancés. Hein.
Il y a eu le duel oui. Bill Curry à 34, les deux.
Ouais.
Mais c'est tout, en fait. Dernière... Sinon,
après, il faut aller chercher du Jordan 88, des trucs comme ça.
Il y a peut-être un peu, ça se trouve, un T-Mac peut-être à tourner au-dessus de 30. Mais je veux dire, c'est pas à chaque saison. Et là, il y a plusieurs mecs.
Ça légèrement les 30, mais pas plus. Hein.
Mais là, il y a plusieurs mecs qui sont au-dessus de 32 points, en fait. Il y en a 3 ou 4.
Ouais. Il y a Doncic à 34, David à 33. Et après, il me semble que c'est.
KD ou Giannis, non?
KD, je crois. Giannis.
C'est monstrueux.
Cette année, les gars, pour donner un petit peu de chiffres, un petit peu de stats, il y en a qui aiment bien. L'efficacité offensive moyen dans la ligue pour 100 possessions est de 113 points. Et en fait, c'est le record. L'an dernier, il était à 112. L'année avant, il était à 111. Et en fait, petit à petit, en fait, il ne fait que de monter. Il était aux alentours de 100 dans les années 2000. Et plus ça va, plus ça monte, tout simplement.
Et avant les années 2000, c'était à combien?
J'ai pas fait tous les chiffres, mais que ça prend du temps à faire les calculs.
Désolé, je t'en prie.
Désolé, j'ai pas toutes les stats.
Parce que je pense que dans les années 80,
il devait être
plus élevé que dans les années 90-2000.
Évidemment, ça suit légèrement la courbe de la pace. La pace était bien plus élevée, même encore plus élevée qu'elle l'est aujourd'hui dans les années 80.
Rappelle ce que c'est la pace, s'il te plaît.
La pace, c'est le nombre de possessions par match.
C'est ça.
Le nombre de possessions moyen, on va dire. C'est-à-dire qu'une pace de 100, du coup, ça veut dire qu'une équipe fait 100 possessions dans un match. En gros. Et du coup, il était aux alentours de 110, voire même un peu plus, dans les années 80. Il a vachement descendu pour descendre jusqu'à aux alentours de 90 dans les années 2000. Et du coup, depuis 2008-2010, on va dire, ça fait que de remonter. Et là, on commence à rattraper à peu près les années 80. Sauf qu'avec le spacing, le 3 points qui s'est vachement démocratisé, les règles avec le nombre de lancers francs et surtout le taux de réussite moyen, en fait, on a jamais eu un taux de réussite aussi fort qu'aujourd'hui. Ce qui fait qu'en fait, le nombre de points moyens, il fait que d'augmenter et qu'on a que des mecs qui scorent de plus en plus dû à tout ça.
C'est intéressant.
Bien sûr, les pourcentages augmentent. Hein.
Je vous ai fait mon petit exposé, il n'a pas duré longtemps.
Non, mais c'est sûr que quand on voit des mecs comme Stephen Curry, comme Durant, qui ont des pourcentages de ouf, alors qu'ils prennent des gros volumes de tirs.
Quasiment 65% à 2 points.
Mais c'est un scandale. Il y a une shot chart, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une shot chart où il y a toutes les positions. Donc il y a 5 positions à 3 points, 5 positions à 2 points, et une position dans la raquette. Et en fait, là où il y a les meilleurs pourcentages au tir de chaque joueur, sur chaque position, KD, il y a les 5 à 2 points.
C'est ça. Ah ouais,
c'est monstrueux.
KD, il y a les 5 à 2 points. Jokic à la raquette, et les extérieurs, il y en a un pour Lillard, un pour, enfin je sais plus, mais...
Un pour Curry, et je sais plus.
Mais Durant, dans le mid-distance, en fait, tu peux pas faire mieux, en fait, c'est pas possible. Plus efficace, c'est impossible.
Waouh, c'est impressionnant.
Ah, c'est ouf.
On parlait un peu de toutes les perfs qu'on a eues, là, du coup. On se fait un petit détail dessus, un petit focus, les gars, qu'on...
Vas-y, bah je commence
qu'on
par...
Se tout dur.
Je commence par celle de Novan, hein, les 71 points. Donc c'était le 3 janvier, une victoire 145-134 face aux Bulls de notre cher...
C'est bon, on a compris ça.
En overtime. première mi-temps compliqué pour les Cavs. Les Bulls dominent largement et Mitchell, il est seulement à 16 points. Donc ça va, 16 points à une mi-temps, c'est correct. Sauf que le gars s'est un petit peu énervé puisque dans le troisième quart-temps, il fait un petit 24 points. Dans le quatrième, il en met 18, dont le célèbre lancer franc qui est mordu pour certains, mais il manque volontairement son lancer franc, prend le rebond et marque en 4 secondes. Et en overtime, du coup, il en met 13 pour s'assurer la win. Donc, un total donc, de 71 points, comme je l'ai dit. Il a aussi fait 11 passes, 8 rebonds, 22 sur 34 au tir, 7 sur 15 à 3 points, 20 sur 25 au lancer franc. Ça fait beaucoup de lancers quand même, mais il fallait les mettre. En tout cas, c'est le premier joueur de l'histoire en 70 points, 10 passes. Le 7e joueur de l'histoire a dépassé les 70 points. On en savait donc qu'il y a eu Wilt avec ses 100 et puis il a fait plein de perfs au-dessus de toute façon. David Thompson à 73, Elgin Baylor, David Robinson, Kobe avec ses 81, Devin Booker avec ses 70. Et du coup, petite stat intéressante pour ceux qui aiment les stats, la performance globale du coup de Donovan l'implique dans 99 points de son équipe. C'est le deuxième plus gros total depuis les 100 points de Wilt Chamberlain, où son implication sur le match était de 104 points. Donc et ça compte évidemment les passes décisives, etc.
C'est impressionnant. Donc,
c'est monstrueux. Un match légendaire pour ceux qui... Enfin, je pense que tout le monde ici et tous ceux qui écoutent ce podcast ont forcément vu des highlights. Mais sinon, vous avez le match avec tous les tirs de Donovan sur YouTube, sur la chaîne NBA. Donc allez-y.
Allez vous faire le replay, ouais, carrément. Parce que... Attention, je vais critiquer, c'est pas bien. Mais je vais faire le petit parallèle avec Devin Booker, c'est 70 points.
Ouais.
Mais Devin Booker, quand il fait ses 70 points, on voit que c'est forcé, désolé, mais enfin c'est forcé de ouf. Il y a toute l'équipe qui fait la passe, vas-y, shoot, tire, tous les ballons sont pour toi. Là, Donovan, il l'a fait réellement, je trouve, sans forcer. Enfin, évidemment, il a croqué en fin de match, il a pris tous les tirs, mais parce que le mec était super chaud, donc tu lui laisses tous les ballons. Mais je veux dire, c'est pas non plus comme si toute l'équipe était là en mode vas-y, prends le ballon et il y a que toi qui tire.
Sauf que là où le fait est que Donovan met 71 points et c'est pas que de l'isolation. Il y a des rotations de balles, il y a du mouvement de ballon, il y a des coupes, il y a donc de la faute provoquée.
Parce qu'il est chaud, mais c'est collectif.
Donc
enfin,
ils font en sorte que ce soit lui qui prenne le dernier tir, mais c'est une performance collective avant tout.
Et par rapport à Devin Booker, il y a une win surtout.
Ouais.
Oui,
ah oui, c'est vrai, aussi, ouais, j'avais
une défaite.
Parce que c'est plus fort, le fait que du coup il n'ait pas tout joué tout seul quoi. Enfin...
Devin, c'était contre qui d'ailleurs?
Contre Boston.
Et Boston?
Ouais, Boston. Et du coup, par contre, il y avait défaite.
Aïe, 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 coup dur. Miguel, t'as une petite perf à nous annoncer?
Ouais, moi, en tout cas, c'est ma perf, franchement, sur toutes les perfs qu'on a eu, c'est ma préférée, c'est celle de Luka Doncic, où il nous sort un match à 60 points, 21 rebonds, 10 passes décisives. Et moi, juste pour l'anecdote, j'ai pris une grosse cuite la veille, je me suis réveillé, j'ai vu ça. Alors, j'étais pas écrémi, hein, ça peut peut-être choquer les personnes.
Ça pourrait porter à confusion.
Ouais. Non, mais moi, je me suis réveillé et je vous promets, j'ai vu le score. Je pensais, je dormais encore, c'était pas possible. Et en plus, quand j'ouvre mon téléphone et que je vois justement la fin de match où il fait justement exprès de rater, enfin, il rate son lancer franc, t'as un grand cafouillage, tout le monde essaie, du volleyball le truc. Hein. Ouais, et là, Doncic, il la prend dans ses mains, il la met, c'est incroyable. Et derrière, ils vont gagner le match. Franchement, la perf est incroyable. Et en plus, je crois que c'est la première fois qu'on a un mec qui met, qui fait un 60-20-10.
C'est la première, ouais.
C'est le plus gros triple-double de l'histoire, hein, très clairement.
C'est ça, hein, c'est...
Ouais, on est pas loin.
Il a détrôné Harden, merde.
Ah, ça dépend, parce que l'autre malade mental de Westbrook, il a quand même fait un 20-20-20. C'est pas dégueu aussi. Hein.
C'est pas dégueu, je suis d'accord. Ah,
c'est pas dégueu aussi. Hein.
C'est pas dégueu. Mais
60-20-10, oui, c'est costaud.
Ouais.
Et perso, pour avoir vu le match en live... Et à 5 minutes de la fin, dire bon, bah c'est bon, les Knicks c'est win. Ok, d'accord, très bien. Une quenelle énorme qu'on a pris, mais ça m'a pas dérangé parce que c'est Luka Doncic qui fait ça. Ça aurait été n'importe quel autre joueur, j'aurais cassé ma télé, c'est bon. Mais là, Luka Doncic, c'est
très long, tu aurais brûlé.
Ah, clairement, ah, très young. Oh bah, je sais pas ce que j'aurais fait, mais j'étais pas là. Alors que là, Luka Doncic, vas-y, c'est pas grave, c'est Luka, ça me va.
On souhaite que Trae Young ne fasse jamais ça au Madison. Allez, Vincent, donne-nous ta perf pour te détendre.
Attends, je continue sur Luka tout à l'heure. Tu nous parlais du nombre de points générés par Donovan Mitchell qui était à 99 là. Ouais. Luka, du coup, ça donne quoi en termes de stats? Parce que du coup, il est forcément à 100 minimum.
Il y a 60 points et t'as dit combien de passes décisives?
Il y a 9
passes décisives.
Non, il y en a que 10. Ouais, non, c'est 20 points, 10 passes.
Ouais,
my bad.
Après, sauf s'il a fait des passes sur des 3 points, il peut passer. Mais...
Ouais, bah non, même pas.
Bah, même pas, ça fait soit 90. Donc, non. Mais, ça reste énorme. Hein. Ça reste énorme. Du coup, Vincent, vas-y.
Bah, déjà, 60 points, c'est énorme.
Bah oui.
Vincent, déjà, je sais qui va parler.
Bah, vas-y, je vais parler qui? Le GOAT?
Du deuxième joueur all time.
Ok, d'accord. Non, moi, je parle de LeBron. Enfin. En vrai, il y a plusieurs...
Du deuxième meilleur scoreur au prolifique.
Du bientôt meilleur scoreur, du scoreur le plus prolifique.
Du très, très,
du très bientôt scoreur le plus prolifique de l'histoire. Ouais, LeBron qui a fait un petit match le jour de son anniversaire, le 30 décembre. Là.
Il nous a envoyé... 38 ans. De ses 38 ans.
Ouais, mais parce qu'il sortait de son tombeau. Tu sais, c'est une momie, le mec, maintenant.
Undertaker. Il y a la cloche qui sonne quand il rentre sur le terrain.
Non, franchement, pour avoir regardé le match, alors pas le début, mais la fin, franchement, en fait, tu regardes, tu te dis, ok, donc le mec a 38 ans, le mec envoie un match en 47-9-10.
Monstre.
À 38 ans pour son anniversaire. D'accord, très bien, merci, au revoir. Et en plus de ça, ça a l'air easy, en fait. Franchement, moi, quand je... Enfin, c'est... Alors, c'était Gatlanta, entre guillemets. Mais en fait, le mec est trop fort, tu vois. Il prend les shoots. Et il n'a pas des pourcentages si dégueulasses que ça, parce qu'il fait 66% au tir, 66% à 3 points, et 77% au lancer. Bon, ça.
Ah, les lancers, ça fait tâche, mais le reste, c'est méga propre.
Ouais, bon. Ouais, mais en fait, en même temps, juste LeBron serait à 90% au lancer dans sa carrière, il serait déjà meilleur scoreur de l'histoire, en fait.
Ah, depuis deux saisons déjà.
Ah, oui.
Depuis au moins deux saisons. Donc, bon. Donc, bon. C'est, on sait que c'est son péché mignon. Voilà. Et après, il y a quand même 5 pertes de balles sur ce match, mais franchement,
tu pardonnes.
Les perfs de LeBron comme celle-ci sont de plus en plus rares, entre guillemets, depuis quelques saisons.
Ouais,
mais par contre, quand elles arrivent, gros, ça retourne tout le monde.
Et même cette année, là, il a quand même fait une série de 6 ou 7 matchs à plus de 30 points.
Ouais, en même temps, c'est... Là, pour son anniversaire, pour quand il met ses 47 points, en interview, il dit « Quand j'en mets plus de 30, ça marche pas, donc il faut que j'en mette 40. »
Ouais.
Frère.
Voilà.
Frère, t'as 38 ans, calme-toi aussi.
Enfin, voilà. Edwin, parce qu'au final, dans les perfs qu'on a là, moi j'ai que des victoires, sauf un match de Giannis où il y a défaite.
Bah, du coup, faut parler de Giannis.
Vas-y. Bah, vas-y, je te laisse en parler.
Giannis.
Victoire des Bulls.
Défaite contre la victoire des Bulls, pas terrible.
Giannis, le 21 décembre, c'est 45 points, 14 rebonds. Le 25 décembre, c'est 45 points à 22 rebonds.
Joyeux Noël.
Le match d'après, le 30 décembre, c'est 43 points, 20 rebonds. Et il n'y a pas longtemps, il nous a fait un petit match à 55 points.
Pas mal.
Voilà.
Record en carrière, du coup.
Ouais, en plus, ouais. Ouais.
Je l'ai vu, ce match. Il était propre.
Et 55 points, c'est aussi le record en carrière de...
Tipeee.
Ouais, bien vu.
C'est le deuxième meilleur scoring européen, derrière du coup un fameux Luka Doncic.
Je sais pas qui c'est.
Moi non plus. On a également du Nikola Jokic, parce que...
Ouais, vas-y, lui, c'est
futur trop. MVP, le futur MVP.
Ouais. Alors attends que je ressorte les dates aussi, parce qu'il y a quelque chose. Bah, le 18 décembre, il sort un 40 points, 27 rebonds, 10 passes.
Voilà. Et le 25 décembre, il nous sort un
15
rebonds, 15 passes. Bonjour.
Nikola Jokic, le plus impressionnant, les gars, c'est même pas tant ces perfs-là, c'est sur la saison, parce qu'il nous a fait deux grosses perfs, mais sur le reste de la saison, il nous a pas fait des perfs si extraordinaires. Enfin, pas
il a fait des gros matchs, mais moins en termes de stats.
En moyenne, Nikola Jokic, c'est 25 points, 11 rebonds, quasiment 10 passes, il a 9,7, donc on est à quasiment du triple-double du moyenne, à 62% de réussite au shoot.
Il va le faire, gros, il va le faire. Il faut qu'il fasse un triple-double.
En faisant 2m15 et 100 000 kilos.
2m11 pour 130 kilos, ouais. Mais surtout que le mec court aussi vite que moi. Quoi.
Il est impossible à défendre, gros. Il a les yeux partout. Il est trop fort.
Et c'est ce qu'il disait. À un moment, il disait en interview, bah en fait, si j'ai pas besoin de scorer, je score pas. Mais par contre, je peux envoyer 10 passes, tu vois, 15, 20, 35.
Bah ouais,
c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait au dernier match, là. Il fait 14 points, 11 rebonds, 16 passes, à 100% en shoot. 7 sur 7. Terminé.
Très bien, merci, au revoir. Je m'appelle Nicolas, j'ai un gros pif de Gérard Depardieu.
Mais c'est ça qui est fort pour Nico, c'est que malgré tout, malgré l'immense joueur que c'est, quand il y a les coéquipiers derrière qui sont trop forts, genre Jamal Murray qui prend feu, machin, ça les sert de ouf. Et en fait, il s'en fout de marquer ses 25 points.
Il s'en bat les couilles.
Ah, mais lui, en plus de ça, désolé, mais les joueurs autour de lui. Alors j'adore Jamal Murray.
Ah, ils ont un beau collectif, les Nuggets, tu peux pas dire ça. Ils sont pas premiers à l'Ouest pour rien.
Non, mais ça, bien sûr. Mais je veux dire, il n'y a pas des talents de ouf.
Bah, il y a
top scorer.
Non, c'est ça. Si Murray, il peut être top scorer quand même.
Non, bah oui. Ouais.
Murray, il est pas top scorer parce qu'il a eu Kukic. Peut-être que s'il était dans une équipe où il était un peu plus seul, il en mettrait 30.
Ouais, ouais, ouais. Il nous a fait une série de playoffs, il te marque à 50 points. C'est vrai.
Voilà, faut pas oublier. Hein. Donc, si Jamal Murray, c'est quand même un top scorer. Après, voilà, il y en a qu'un, quoi.
Parce qu'en c'est fait. Aaron Gordon sur qui tu comptes quand tu fais une passe. Hein.
Ah, bah ça dépend si tu l'envoies dans les airs. Moi, je compte
sur. Ouais, voilà, c'est, ouais, c'est, ouais, mais c'est le. C'est
oui, s'il y a pas de mascotte, je sais pas.
Mais parce qu'en fait, Jokic, en fait, c'est même pas un top scorer, Jokic.
Mais non, c'est un.
C'est un top, tu peux rien
faire. C'est un MVP.
C'est un top, tu peux pas défendre sur WAM.
C'est un top valuable player.
Quand je le vois jouer, moi, je vois la même efficacité que Tim Duncan avait juste des fondamentaux, mais en fait, tu peux rien faire.
Bah, offensivement seulement.
Même s'il y a plus de technique pour Jokic, je veux dire que dans l'efficacité, genre, bah, tu peux rien faire. Il est trop propre.
Non.
Il est trop propre.
Votre perf préféré, les gars ? Allez, Miguel. Bah, toi, tu l'as dit, toi, t'as dit que c'était Luka.
J'ai dit à Luka direct, bien sûr.
Pourquoi ? Bah, moi...
Mais pour parce que le... Parce que pour le meilleur réveil de ma vie. J'étais dans un mal pas possible, mais putain, qu'est-ce que ça m'a rempli de joie.
Alors, à quelques semaines près, ça rentrait dans le top 10 des moments NBA de...
Ah, franchement, ouais.
C'est pas la perf, juste le réveil.
Le réveil.
Eh bien, moi, c'est les 54 points de mon cher Klay Thompson.
Ouais,
avec les 10-3 points.
On n'en a pas parlé, mais...
Ça m'a régalé de le voir jouer comme ça.
Ouais, 54 points, 10 sur 21 à 3 points. Mec, prend 21 tirs à 3 points, par contre, paiement.
Après, ah, on mais 10, c'est gros, c'est énorme.
Ah
c'est quasiment 100%. Donc,
ouais, 47%, c'est propre. 21 sur 39 au shoot, 2 sur 2 au lancé, 8 rebonds. Bon, c'est pas mal.
Ça fait un et le pauvre, en vrai, tellement déçu qu'on n'en ait même pas parlé de sa perf.
Mais en ouais, fait,
il a, il a fait cette perf-là le soir des 71 points de Donovan
Mitchell. Bah ouais, du coup, personne n'en a parlé.
Et en fait, du coup, tout le monde s'en est battu. Bah, 54 points, c'est pas dégueu. Ouais, mais ah, ouais, ça montre à quel point Thompson, c'est un joueur de l'ombre, mais par contre, qui peut t'envoyer des perfs comme ça, en fait. Tu vois, le mec
même quand il fait ça, on n'en parle pas.
Même quand il fait ça, on n'en parle pas du mec. Même quand il envoie 54 à 10-3 points, vas-y, on n'en parle pas, c'est incognito. Ouais.
Et toi Rémi, c'est quoi ta perf préf?
Moi je pense que je vais rejoindre Miguel et c'est Luka. En vrai c'est trop impressionnant ce qu'il a fait. Le mec il peut scorer comme il veut. Quand il score pas, bah, en fait il peut montrer qu'il peut faire la passe quand il faut. Et derrière, alors que le mec il a le même physique que moi, il peut prendre 20 rebonds. Vas-y. Mais le plus légendaire dans ça, c'est la réplique de fin de match.
Bah ouais, vas-y.
Je suis un peu fatigué, faut que j'aille prendre une bière. Bah frérot, bah viens la boire avec moi mec, on va en parler.
Oh là là. Magique. Avec son sourire de coquin quand il dit ça là, tu sais. En mode c'est ma routine habituelle en fait, mais vous le savez pas.
Ouf, c'est du Larry Bird bis. C'est du Larry Bird dans la NBA actuelle. Il pourrait caler 60 points, qui dirait bon les gars, je vais au bistrot. Qui c'est qui vient?
Je vais aller me faire un petit tiercé là.
Exactement.
Tranquille. Tranquille.
Bon, on n'a pas vraiment répondu à la question, mais on a essayé d'amener le plus d'éléments possible. De toute façon, il n'y a pas vraiment de réponse. C'était plus un débat, histoire de déposer un peu les idées que nous, on avait de cette question.
Et du coup, juste petit mot de la fin pour moi. Sachez apprécier les perfs des mecs qui mettent plus de 30 points dans un match, ou même ne serait-ce que 27-28, parce que bah, en fait, c'est quand même pas rien. Donc même si maintenant, les 40-50 points, ça devient banal pour certains mecs, et pas marquer 30 points, ça reste bon, donc sachez de l'apprécier et juste profiter de la NBA qu'on a, parce que même si c'est trop spectacle pour certains, pas assez défensif ou autre, et bah, ça reste quand même le sport qu'on aime, et mine de rien, bah, c'est beau. C'est beau ce qu'on voit. Voilà.
C'est ainsi que nous terminons cet épisode. On espère qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver les épisodes précédents sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast. Évidemment, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter @WakeUpNBA. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Portez-vous bien, vive le basket, vive la NBA. Ciao.
Salut tout le monde.
Ciao.